J'aimerais que vous tourniez. Benjamin, tu peux envoyer la première image en avant. Je vous demanderai de tourner à ce passage-là ici, dans Luc au chapitre 4, le verset 16, s'il vous plaît. Luc au chapitre 4, le verset 16. On va lire, ça c'est notre passage principal, on va lire un deuxième passage après dans l'Évangile selon Jean. Le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle en français. La bonne nouvelle selon Jean, la bonne nouvelle selon Luc. Donc, vous êtes au bon endroit dans Luc, au chapitre 4? OK. Je vais tourner moi aussi. Je vais juste m'adresser au Seigneur quelques instants. Notre Père Céleste, nous voulons te dire un gros merci pour ta parole. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Donc, dans Luc, au chapitre 4, à partir du verset 16. Ici, ça parle du Seigneur Jésus. Il, c'est Jésus. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai pris le titre pour le message dans ce verset-là, à la fin, le verset 19, « Une année porte ouverte ». Il y a quelques jours, j'avais la visite de ma fille de la Suisse avec son mari, et puis à un moment donné, je faisais une sieste après-midi, je vais aller vous rejoindre. Ils avaient pris une marche, et puis je termine ma sieste, puis là je me dépêche pour aller les rejoindre. Je dis « Où est-ce qu'ils peuvent bien être ?» Et là, en regardant dans le quartier, en circulant, j'ai vu une grosse maison, une belle maison, c'était marqué « porte ouverte ». Je me suis dit « Ils sont peut-être rentrés là. » Elles sont peut-être rentrées là, mais ils n'étaient pas, ils ont essayé de rentrer, mais c'était fermé. C'est qu'il y avait un temps limité pour cette porte-là. La porte était fermée. Fait que je vais regarder ailleurs, je les ai trouvés plus loin. Mais ici, le Seigneur Jésus mentionne que l'offre qu'il nous fait ce matin, l'offre qu'il a fait à ces Juifs de son temps, c'est une offre limitée. Une offre qui a un temps limité. Donc, j'aimerais qu'on lise la deuxième partie dont j'avais parlé, et après ça, on revient dans Luc au chapitre 4. La deuxième partie, c'est dans Jean. Tournez maintenant dans le prochain évangile, l'évangile selon Jean, au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si, là tout le monde était content, OK? Jésus avait fait des miracles, il y avait parlé de choses merveilleuses. Tout le monde était content. Yeah, Jésus, il dit des belles affaires. Jésus, c'est intéressant d'entendre parler. Mais là, Jésus va rajouter quelque chose. Remarquez bien ce qui va se passer dans la foule. Et il dit aux Juifs, pas n'importe qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hé, hey, que si tu dis là, toi? Hé, hey, si tu dis que la vérité nous affranchira, tu es en train de dire qu'on est esclaves? Et là, les Juifs qui avaient cru en lui, qui étaient tout paumés, ont dit, on n'a jamais été esclaves de personne. Que si tu dis là, toi? Hé, hey, les Juifs, pas esclaves de personne. Ils étaient esclaves des Romains à ce moment-là. Les Romains les écrasaient, puis toute leur histoire aux Juifs, c'est une histoire de déportation à Babylone et un peu partout. Donc, Jésus a fait des miracles, disait des belles choses, mais quand il a parlé de péché, d'esclavage, il y en a plusieurs qui ont dit, « Hey, qu'est-ce que tu dis là? Voyons donc qu'on est esclaves. On n'est pas esclaves de rien. On a Abraham comme père, on a une bonne religion. » Alors, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. On a la meilleure religion que pose la terre. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, ici, Jésus a fait une déclaration. Il a dit, là on retourne dans Luc au chapitre 4, s'il vous plaît, j'y suis déjà. Il s'est levé dans la synagogue, et je ne sais pas si les Juifs s'attendaient à ce qu'ils lisent Ésaïe chapitre 1, parce qu'il y a plusieurs chapitres dans Ésaïe, mais après avoir déroulé le rouleau, Jésus n'a pas lu chapitre 1. Il a lu le chapitre autour de 60 et quelque chose, le chapitre qui parlait de lui plusieurs centaines d'années dans le passé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dans un autre évangile, c'est écrit « pauvre en esprit ». Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Qui n'a pas les moyens. Ici, « pauvre en esprit », c'est qu'on n'a pas les moyens et la capacité de se reconnecter avec Dieu. Parce que quand nos premiers parents ont péché, l'esprit qui est en communication avec Dieu est tombé esclave de l'âme, des émotions. Les émotions, c'est le cœur avec Dieu. Donc, l'esprit ne dirige plus rien. C'est les émotions qui dirigent. Et si les émotions avaient dirigé seules, mais non, les émotions sont tombées en dessous des désirs du corps. Fait, finalement, qui mène dans la perdition, qui mène dans l'esclavage du péché, c'est le corps qui mène. Le corps dit quoi faire au cœur, et le cœur, ou juste les émotions, ils disent quoi faire à l'esprit. C'est complètement viré à l'envers. Et Jésus dit, les pauvres en esprit, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de se reconnecter avec Dieu. Je suis venu leur annoncer une bonne nouvelle. C'est lui qui fait la connexion maintenant. Ensuite, les cœurs brisés. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle pour les cœurs brisés. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Bien, un pauvre n'a pas les moyens de reconnecter son cœur avec Dieu. Il est déconnecté de Dieu. Il ne sait plus comment aimer Dieu. Puis pas pire que ça, mais plus que ça, il ne peut plus aimer sa femme convenablement, ses voisins, ses ennemis encore bien plus. Il n'est plus capable d'aimer. Ensuite, le Seigneur Jésus continue et il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, on a eu l'esprit ici qui est perdu, l'âme qui est brisée, c'est le cœur, le siège des émotions, le cœur brisé. Et ici, on a captif. Il est venu libérer des captifs. Mais captif de quoi? Est-ce que nous autres, ce matin, on va dire comme ces Juifs qui ont dit à Jésus, « Hey, on n'est pas esclaves de personne, si. On est dans une bonne religion. Voyons donc, nous rendre libres. Je me sens pas esclave, en tout. » Captif. L'homme qui est captif n'a pas les moyens de se délivrer. Paul, plus tard, va parler de l'esclavage de la loi. André, notre frère André nous en a déjà parlé dans Romains. Je suis par la chair esclave. Je suis par mon entendement. Ça serait merveilleux que mon entendement soit heureux avec Dieu. Mais c'est marqué, je suis par mon entendement esclave. Ça, c'est pas beau, cela, là. Esclave, pas de Dieu, mais de la loi de Dieu. Je suis dans un état d'esclavage. Et finalement, c'est une oppression terrible. Je n'ai pas les moyens ni la capacité de me libérer de l'oppression. Dans ce passage-là qu'on vient de lire dans Luc au chapitre 4, le Seigneur Jésus nous révèle trois choses. Il fait trois révélations. La première, il nous révèle notre captivité. La deuxième, il nous révèle son identité. La captivité, vous l'avez ici, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors, ceux qui ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il s'en vient promettre de libérer mon voisin. Il s'en vient libérer les captifs, où j'en connais, là. J'en connais sur ma rue qui ont vraiment besoin d'être délivrés. Ah oui. Puis j'en connais au gouvernement. Puis j'en connais dans une autre place, là. Oui, j'en connais qui ont besoin d'être libérés. Et c'est bien le fun que Jésus soit venu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Et comme les autres Juifs ont dit, comme un sourd, esclave. Il révèle un temps limité. Donc, il révèle notre captivité, il révèle son identité. C'est quand il a dit « parce qu'il m'a oint ». L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Là, on va voir ce que ça signifie de dire ça. Jamais personne n'avait parlé comme ça. Jamais personne n'avait fait une telle déclaration devant les Juifs. Jamais personne, depuis les derniers prophètes. Les prophètes avaient parlé dans l'Ancien Testament, mais jamais personne s'était levé pour dire qu'il venait délivrer les captifs. C'était Jésus a suscité tout un émoi lorsqu'il s'est levé et qu'il a dit ça. Maintenant, il va nous révéler aussi qu'il y a un temps limité. L'offre qu'il te fait ce matin. Jésus est venu nous libérer. Ça implique qu'on est captif. Si quelqu'un, présentement, il y a deux choses. Tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, encore. Donc, si on croit le Seigneur Jésus, tu es captif. Si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus et que tu as de la difficulté épouvantable avec une certaine habitude, ça marche, qu'est-ce que Jésus a dit aussi ce matin. Le Seigneur Jésus est venu nous délivrer. Quand on accepte le Seigneur, il y a des choses qui partent tout de suite. Puis il y a des choses que ça prend un certain temps. Mais pourquoi qu'on serait obligé de vivre pendant des années et des années avec une mauvaise habitude qu'on pense qu'on n'est pas capable d'enlever dans notre vie? Et c'est justement ça le problème, c'est le « je ». Paul l'a dit, André nous l'a très bien montré lorsqu'il a développé ce passage-là, « je », quand « je » veux faire le bien, quand « je », quand « je ». Et dans ce « je-là », il y a l'invention de toutes les religions. Quand quelqu'un commence à se sentir coupable, quand il voit qu'il est esclave, qu'il n'arrive pas à s'en sortir, bien, il va s'inventer une religion, soit pour calmer sa conscience, ou il va s'inventer ce que dans la religion on appelle genre des sacrements. OK? Fait que t'as pas besoin, là, t'as juste à te faire garrocher de quoi, de sacramentel sans tête, puis là, tu te sens pardonné au niveau de Dieu. Les religions, c'est quelque chose qui remplace Jésus. Et toutes les choses qu'on peut essayer dans notre vie, ça ne marche pas. C'est impossible. Paul l'a dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Si, présentement, ce matin, il y a quelqu'un dans la salle qui a de la difficulté avec quelque chose, Jésus te lance une invitation. Il peut te délivrer. Est-ce qu'il en est capable? Il le peut. Et pas demain. Il le peut pour le salut de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Il le peut aujourd'hui. Pour la victoire dans ta vie chrétienne, il peut aujourd'hui, pendant que tu vas entendre la parole de Dieu. Ça ne dépend pas du tout de moi. Il peut te délivrer aujourd'hui. Quand tu vas quitter cette salle-là, tu vas quitter avec plein de remerciements dans ton cœur. Tellement de remerciements, tellement content ou contente d'avoir fait le geste de la foi qui te montre que tu es délivré, que tu vas oublier de prendre un café en sortant. Donc, parlons maintenant de la captivité. Ça doit être prochain. OK. Si vous lisez l'Épître aux Romains, vous allez découvrir, surtout dans le chapitre 7, qu'il y a 5 lois. On est vraiment foutus. Il y a 5 lois qui nous retiennent captifs. Il y a la loi du péché, OK, la loi de Dieu, OK, parce que ça a été mentionné. La loi de Dieu, c'est marqué dans la parole de Dieu que nous sommes, jusqu'à ce que Jésus vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. La loi, son but, c'est de nous enfermer. OK, il y a un but de protection pour les autres là-dedans, puis il y a un but aussi de nous enseigner qu'on est vraiment perdu. Donc, la loi de Dieu nous enferme. Et la loi de la mort, puis de ces trois lois-là découlent deux autres lois, deux sous-lois. La loi de mon entendement. Je suis, par mon entendement, esclave de la loi de Dieu. Non pas heureux avec Dieu, là, non pas en belle communion avec lui, mais je suis esclave de la loi de Dieu. C'est différent de l'expression qu'on peut voir, « je suis esclave de Dieu ». Ça, c'est différent. Esclave de Dieu, Jésus l'a été. C'est un esclavage qui libère. Au lieu d'être esclave du péché, maintenant je suis esclave de Dieu, ça implique un rapport. Mais esclave de la loi de Dieu, c'est « je suis sous des ordres, des commandements ». Et la loi s'adresse à des personnes immatures, à des bébés. Ici, dans la parole de Dieu, quand la loi de Dieu est mentionnée, la loi est comparée à un précepteur qui conduit un enfant à l'école. L'enfant ne peut pas aller à l'école tout seul. Il n'est pas assez mature encore pour savoir quoi faire. Alors, la loi lui dit, « Tu aimeras Dieu, tu ne voleras pas, tu feras ci, tu feras ça. » Mais imaginez-vous une femme qui, par son entendement, est esclave de la loi de son mari. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça n'a pas d'allure. Ça ne marche pas comme ça dans un couple. La femme n'est pas esclave de la loi de son mari. Si un mari fait des lois comme ça dans sa maison, j'ai l'impression que ça ne serait pas trop vivable. Hein? Tu comprends? Donc, on est vraiment foutu. Et tu sais, si y a-t-il quelque chose de plus ou moins pesant ici? Un livre, tiens. Le livre est parti. OK. La bouteille d'eau. Tiens, je prends ma Bible. OK. Parlons des lois. Vous savez ce que c'est que la loi de la gravité? OK. Pendant combien de temps vous pensez que je suis capable de tenir ma Bible dans les airs comme ça? Ça dépend de la force de mon bras. OK. Dans la famille des Gautier, c'est pas dans les jambes qu'on est le plus fort, c'est dans les bras. J'ai déjà battu un gars plus fort que moi au poignet. Je m'en vante pas, là. OK. Donc, OK. Donc, combien de temps est-ce que je peux la tenir? Ça dépend de ma force. Oui, ouais, moi, je suis capable. Mais, savez-vous quoi? Tôt ou tard, vous savez ce qui va arriver. La loi de la gravité, tout tombe. OK? Tant et aussi longtemps que je vais essayer de la tenir, je vais me fatiguer pour rien. Parce que j'ai pas compris que le péché, c'est une loi. Et on peut pas combattre une loi. La loi va toujours gagner. Et tant que tu vas essayer, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas brailler, tu pourras pas, et ça va faire mal, jusqu'au moment où tu vas dire non, tiens, tu vas céder à la tentation. Tu vas laisser tomber. La seule chose qui pourrait vaincre cette loi-là, c'est la loi antigravitationnelle. Donc, ça prend une loi pour combattre une loi. Et toutes ces lois-là qui sont là, il y en a une qui peut battre toutes ces lois-là. C'est, puis vous le savez, je pense à André, si je me rappelle bien, vous l'a mentionné la dernière fois, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, si tu essaies avec des jeux, avec tes efforts, ça fait 2 semaines que tu brailles, parce que brailler, on dirait que c'est pire que pleurer, hein? C'est vrai, hein? Ça fait 2 semaines que tu brailles parce que tu n'arrives pas à avoir une victoire dans ta vie. C'est justement le problème, c'est que tu mets un jeu. C'est parce que tu essayes. Arrête d'essayer. Jésus est là, c'est lui qui le fait. C'est une loi qui est plus forte qu'une loi. Mets plus de jeu là-dedans, ça n'arrivera pas. Maintenant, étant donné que j'ai sélectionné ce matin la première révélation que Dieu nous fait, nous révèle notre captivité, c'est de la captivité que je vais parler en quelques mots. Concernant la captivité, okay, je suis né dans le péché. Le 27 septembre, attendez, plus je regarde la date, le 29 septembre 2012, dans un hôpital à Ottawa, il y a un petit bébé qui est venu au monde. Excuse-moi, pas dans l'hôpital, dans une prison. Le bébé est venu au monde dans la prison. Sa mère est en prison. Il n'avait encore pu faire aucun mal. Il vient au monde dans une prison et il est mort quelques jours après. Voilà notre condition. David a dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Il n'était pas en train de dire que sa mère avait commis un acte illicite puis qu'il était le fruit d'une chose adultère. Non. Il dit, « Quand ma mère m'a mis au monde, je suis venu au monde dans une cellule, esclave du péché. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Puis là, David, parce que dans l'Ancien Testament, vu qu'il n'avait pas encore la connaissance de Jésus, comme on l'a aujourd'hui, ça broyait, ça criait. Fait que David disait, « Crée en moi un cœur pur. Tu sais, je vois que je suis venu au monde dans le péché. Donne-moi l'intelligence pour que je le comprenne, puis donne-moi un cœur pur, puis lave-moi. » Il criait, puis il braillait. On ne braillera pas aujourd'hui, là. Parce que Jésus est venu, il est mort, et il offre sa libération. On n'est plus dans l'Ancien Testament, là. On n'est pas pour brailler 3 ans après sa délivrance. Il est là. Il a tout fait. Donc, je suis né dans le péché. C'est pas drôle. On vient au monde dans une cellule de prison. Et puis, le bout de ça, c'est le salaire du péché. C'est la mort. C'est pas un cadeau. Puis, c'est pas quand même drôle pour moi de parler de ça, là, en entrant ce matin, là, du péché. Mais Jésus, après ses miracles, avoir dit des belles choses, surtout qu'il a parlé d'esclavage, il y a une gang d'enfoule qui ont dit, hey, oui, on est esclave de quelque chose, tu sais. Il dit, tu viens de Nazareth, tu viens d'une place où est-ce que il n'y a pas du monde important qui sont là, tu sais. Fait que c'est vraiment pas drôle. Le péché n'est pas reconnaissant. Le péché te remerciera pas si tu le fais. Mettons que tu fais 2, 3, 4, 5 péchés, il te remerciera pas. Il te fera pas de cadeau parce que tu as permis d'entrer dans ta vie. La plus belle exemple pour ça, c'est Samson. Samson, Dieu lui avait donné une force extraordinaire. Le signe extérieur de sa force, c'était ses cheveux. Il avait des grands cheveux. Mais vous savez vous-même que ce n'était pas les cheveux qui étaient la force de Samson, c'est sa consécration à Dieu. Ses cheveux, dans ce temps-là, pour lui, étaient le signe qu'il s'était consacré à Dieu. Tiens. On n'est pas pour dire qu'on n'est pas là, hein? Ça serait un péché de plus. OK. Donc, Samson avait reçu une force de Dieu. Les Philistins voulaient tuer Samson, comme le péché veut tuer. Le péché veut te détruire. Il est dit de Satan, puis c'est pas de lui qu'on parle ce matin, parce qu'on parle pas de Satan, on parle de la loi du péché en nous, que lui est venu pour voler, dérober et détruire. Mais le péché fait pareil. Donc le péché veut te détruire. Alors les Philistins ont dit, on va y envoyer une femme. On sait que Samson, c'est un gars qui aime les belles femmes. Ils ont envoyé une belle femme. Je sais pas si vous connaissez tous l'histoire, mais cette femme-là avait comme mission, c'est quoi ton secret, Samson? C'est quoi le secret de ta force? Samson ne parlait pas, il ne disait pas. Elle revenait à la charge. « C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Ah ouais, dis-moi-le. Ah ouais. Ah ouais, Samson. T'es un beau gars, Samson. T'es beau, mon Samson. Regarde, t'es fort, Samson. » Tu sais, elle l'a chalé, je ne sais pas pendant combien de temps. Et quand Samson, il n'en pouvait plus, à un moment donné, il lui a dit son secret. Le péché n'est pas reconnaissant. Là, il aurait pu être reconnaissant, là, le péché, parce qu'il a cédé à la tentation. Et quand il a dit son secret à la femme, il est allé voir les ennemis du peuple juif, les Philistins, qui sont un bel exemple du péché aussi qui veut renaître dans nos vies. Les Philistins sont venus et ils lui ont crevé les yeux. Lui qui aimait les belles femmes, qui aimait la belle vie, le bon vin, le bon tout, et puis qui était bien avec cette femme-là, mais qui travaillait pour l'ennemi. Ça aurait été merveilleux qu'il ait une femme de Dieu avec lui. Il a eu encore eu ses cheveux, puis il aurait encore eu ses yeux. Alors, les Philistins ont coupé ses cheveux, puis ils ont crevé les yeux. Et comment Samson est fini? Oui, il a regretté tout ça. Il a fini écrasé dans un éboulement. Il a retrouvé sa force, mais quelques instants, puis l'immeuble s'est écrasé au-dessus des Philistins, puis s'est écrasé au-dessus de lui, il est mort. C'est pas une belle façon, ça, de terminer une vie pour Dieu? Les yeux crevés. Le péché n'est pas reconnaissant. Si tu le laisses entrer dans ta vie, il ne te remerciera pas. Au contraire, il va t'achaler, puis il va t'achaler, jusqu'à temps que crever tes yeux. Puis jusqu'à temps que tu sois écrasé sous tout l'éboulement de la maison. Il n'est pas reconnaissant. Ensuite, pour parler de l'esclavage du péché, ben c'est une noix. On est venu au monde dans une cellule, puis si ça tombe mal, dans cette cellule-là, la peine, c'est la peine capitale. On est venu au monde dans une cellule de peine capitale. On est condamné à mort en venant au monde. Le péché n'est jamais satisfait. Là, j'avais une image. On va aller la chercher. Le péché. Ah, voyez-vous Samson? Ici, les yeux crevés, les Philistins qui l'ont fait prisonnier, enchaîné, les cheveux coupés aussi. OK, ça, c'est quelques instants. Avant qu'il se met. Ah oui, puis toute la force qu'il avait, ils ont fait tourner des meules, ils l'ont fait travailler. Alors le péché, c'est ça qu'il veut faire, il veut t'épuiser en plus de t'enchaîner. On est esclave, ça représente bien le péché. On va aller plus loin. OK. Ça a vraiment arrivé. C'est un homme, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'y est pris, il s'est retrouvé dans la cage d'un tigre. Je ne sais pas si c'est aux Indes, là, c'est dans un zoo, je ne sais pas quoi. Et là, voyez-vous comment est-ce que le tigre le regarde? Je ne sais pas comment ça finit, cette affaire-là. Je sais pas. j'ai pas osé continuer l'histoire, mais je vais vous dire une chose. La parole de Dieu a dit que le pécheur, à cause de son esclavage du péché, le pécheur, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Et normalement, quand un mort est mis dans une fosse, qu'est-ce qu'on met par-dessus lui? La terre. Et là, le verset à la suite va dire, « Et son iniquité lui retombe par-dessus la tête. » Donc, voilà la condition d'un captif dont Jésus parlait. Oh, on n'est pas esclaves de personne, nous autres, là. Voyons donc, oui. On n'est pas esclaves de personne. Donc, mettons que cet homme-là se rend compte qu'il avait arrêté au zoo, il avait été chez Métro, acheté du steak, un petit morceau de steak. Là, il l'a encore dans ses poches. Il dit, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Pour changer les idées du tigre, je vais lui donner mon petit morceau de steak saignant. Est-ce que vous pensez que céder juste un petit peu à la tentation, pensez-vous que de donner juste un petit morceau au péché, pensez-vous que ça va le satisfaire? Non. Quand vous allez avoir donné le petit morceau au tigre, là, le tigre va se relever la tête et dans ses yeux, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas le temps de vous enfuir. Vous n'aurez plus le temps. Plus que tu en donnes au péché, plus qu'il y a le goût. Donne-y un peu, ils vont t'en demander encore. Donne-y un peu, ils vont t'en demander. Il veut te dévorer. C'est une loi, tu ne peux pas y échapper. Tu comprends pourquoi Jésus est venu sur terre? Tu comprends pourquoi Jésus est vraiment venu délivrer les captifs? Pas nous autres! Tu es en train de dire qu'on est esclaves, on n'a jamais été esclaves de personne, là! C'était bien beau ce que tu disais, là, mais là, tu vas trop loin. Le péché aussi ne s'use pas. Vous savez, tu as une gomme effacée, et ça finit par s'user. Ton crayon finit par s'user, ton auto finit par s'user, tout s'use, mais pas le péché. Le péché ne s'use pas, parce que c'est une loi. La loi de la gravité, elle ne s'use jamais. Elle va toujours être là. Toujours être là. Et le péché, c'est pareil, il ne s'use pas. J'ai déjà vu les policiers arrêter des jeunes au Walmart, au Galerie du Cap. Et puis, je me demandais pourquoi les policiers demeuraient avec les enfants qui étaient là. C'est parce qu'ils avaient appelé les parents. Si je peux voler un bonbon, juste un bonbon, là, ben, je suis capable d'en voler deux. Si je suis capable d'en voler deux, ben, je suis capable d'en voler trois. Ouais, mais si je suis capable de voler 5 piastres, je vais voler 10 piastres. Puis si je suis capable de voler 10 piastres, je suis capable de voler 30 piastres. Écoute, moi, je suis capable de voler un tiroir à caisse. Et comme ça se passe à grand-mère, je parlais avec un croyant, un chrétien, qui est répartiteur au poste de police à Trois-Rivières. Il est croyant. Et puis, on parlait de la violence qu'il y a partout au Québec. Et puis, il a confirmé ce qu'on avait pensé. Il y a plus de calls de police pour Shawinigan qu'il y en a pour Trois-Rivières ici. Il y a beaucoup de violence entre les familles, beaucoup de problèmes d'alcool, de drogue, puis chez les jeunes aussi. Et puis, il y a des croyants là-bas qui font du travail extraordinaire parmi la jeunesse aussi, qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors là, si je suis capable de voler un tiroir à caisse, puis il y en a beaucoup qui se font voler des dépanneurs à Shawinigan, je suis capable d'en voler deux. Si je peux faire deux tiroirs à caisse dans ma semaine, voyez-vous, le péché ne s'use pas. C'est à force que tu pêches, tu sais, là, ce que je vais faire, là, je vais pêcher en masse cette semaine, là, je vais le fatiguer, le péché. Et il ne me dérangera plus après. Quelqu'un a déjà dit, et là, j'ose pas l'affirmer, parce qu'en plus, c'est filmé, là, et puis c'est enregistré, je crois que c'est Saint-Augustin, mais je suis pas sûr. Avant qu'il se convertisse, il paraît qu'il s'est converti, mais avant qu'il se convertisse, il avait dit, « Ah là, je t'ai curé d'être tenté par cette tentation-là, je sais ce que je vais faire, je vais pêcher, comme ça, je serai pas chalé. » Lui, il pêchait pour plus que la tentation, mettons qu'il était tenté de faire telle chose. Là. Okay. Juste un exemple, là. Mettons que Saint-Augustin, il avait un ordinateur puis il voulait aller sur Internet. Okay. Je ne sais pas, voir un genre de femme comme Dalila, là, qui a fait tomber Samson. Okay. Bon, il ne faut pas que j'y aille, ça a été écœurant de faire ça. Puis aussi, ça va me bloquer, si ça avait été marié, ça va me ruiner dans ma relation avec ma femme. Ça va. Et là, « Ah non, j'en peux plus. Non, je ne veux plus être tenté. Je vais y aller sur Internet. » Puis après ça, la tentation va me laisser tranquille. Est-ce que tu penses que c'est bon, ça? Non, non. Si c'est converti, j'en suis pas convaincu, mais peut-être que oui. C'est en se rendant compte qu'il n'était pas capable de lutter contre le péché. Mais je laisse ça comme ça, j'en sais pas plus que ça. Donc, si je peux voler 3 tiroirs à caisse dans ma semaine, je peux voler une banque. Puis si je peux voler une banque, je peux en voler 2. Là, il y a un policier qui me barre le chemin, si je peux tuer un policier. Mais, tu sais, maintenant, qu'une fois que tu es criminel, tu continues. Voyez-vous, le péché ne s'use pas. Si tu penses qu'en cédant au péché, ça va le faiblir, c'est impossible. C'est une noix! Tu ne peux pas arrêter une noix. Elle va toujours être là, écrasante, forte, demandante, oppressante. Puis Jésus a dit, « Je suis venu apporter une bonne nouvelle à ceux qui sont oppressés. Hey, toi là, qu'est-ce que tu dis là, là? Moi, oppressé. » Toi, tu n'as peut-être l'air oppressé. Ils se sont moqués du Seigneur Jésus. Ils l'ont accusé de toutes sortes de choses. Voyons donc, toi. Continue à faire des beaux miracles, là, puis arrête de nous dire qu'on est esclave. Je pense que c'est la mauvaise attitude. On va reculer un petit peu. OK. Le péché ne s'use pas avec l'usage. On l'a vu. Il en demande tout le temps. Le péché ne reste pas toujours caché. Il y a à peu près 6 ans de ça, tu as fait quelque chose. Tu l'as pu refaire après. Tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit à personne. Fais attention. Le péché, là, tu sais, c'est une loi, hein? Prends un ballon, là, dans la piscine chez toi, là, ou dans le bain, là. Prends un ballon, puis cale-le dans l'eau. Est-ce que tu peux rester là quand même 3 jours de temps, là, à laisser caler? Non. À un moment donné, tu vas enlever ta main. Qu'est-ce qui va arriver avec le ballon? Il va remonter à la surface. OK? Il y a des gens dans la société, puis là, je ne veux pas parler contre le Botox. OK? OK? Excusez, j'ai ri trop fort. Des fois, mon épouse, elle me dit à la table, « Gilles, je suis juste à côté de toi, parle moins fort. » OK? Bien, je suis comme mon père avait une voix assez forte. Tu sais, les gens qui se mettent du Botox, surtout les gens célèbres, avec un petit peu de richesse, parce que ça coûte assez cher, cachent le vieillissement de leur peau. Ah, il y a des actrices qui ne cachent pas le vieillissement, conservent leurs beaux cheveux blancs, leur visage, puis ils se trouvent des rôles de personnes âgées. Mais les actrices ou les acteurs qui cachent leur vieillissement, avez-vous remarqué, ils ne réussissent jamais à le cacher comme il faut? Tu vois un beau visage, là, puis tu regardes en bas du menton, tu vois plein de rides dans le cou. Trahi par les rides du cou. Ensuite, quand tu leur serres la main, c'est une grosse main noueuse, là. Tu sais, comme le temps d'Halloween, tu sais, une main de sorcière. En tout cas, on a oublié ça, OK? Donc, même si tu caches le péché va ressortir. Comme le ballon, il va ressortir. Dans Nombre, au chapitre 32, le verset 23, la parole de Dieu dit « Votre péché vous atteindra ». Dans Genèse 4, 6, « Caïn, avant même qu'il tue son frère, Dieu lui a dit, « Pourquoi ton visage est-il abattu? » Où est-ce qu'il paraissait son futur crime? Dans sa face, dans son visage. « Pourquoi ton visage est-il abattu? » Ça paraît dans le visage de quelqu'un. Quelqu'un m'a déjà dit que le FBI ou les services de renseignement canadiens ont la possibilité, avec certaines machines, lorsque quelqu'un est interviewé dans la cabine de questionnement, tu sais, quand le détective rencontre la personne, il y a un spécialiste pour la détection des mouvements des muscles du visage. Il y a certaines façons de placer tes muscles, des lèvres ou des yeux. Tes muscles vont te trahir. Si quelqu'un compte un mensonge, il y a certaines personnes qui vont le savoir par la façon que les muscles bougent dans la figure, l'endroit que les yeux regardent, la façon qu'on se tient, penché ou debout. Mais ton péché t'atteindra. Pourquoi ton visage est-il abattu? Ça paraît dans ta face que tu vas tuer ton frère. Ça paraît. Donc, si tu veux cacher ton péché, fais attention qu'à un moment donné, que les gens ne le sachent pas, même si tu ne l'as pas dit, qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que ça finit par paraître dans la façon de parler, puis s'exprimer, puis le visage. Et pire que ça, le péché qui est caché va finir par paraître, et le péché qui est caché et qui n'est pas réglé, c'est la suite du verset dans Ésaïe 3:9, et l'aspect de leur visage témoigne, et comme Sodome et Gomorre, leur crime, ils publient leur crime sans dissimuler. Parce que tu as caché ce péché-là, parce qu'il n'a jamais été réglé, en plus de faire surface, là tu vas dire, oh, OK, il fait surface, bon, mais OK, c'est ça que je suis maintenant. Et là, ce pécheur-là va montrer à tout le monde, hey, c'est mon style de vie. Et je n'ai pas à cœur de vous dire ce qui se passait à Sodome et Gomorre. Je suis sûr que dans l'Église, il y en a au moins le 3/4 qui savent qu'est-ce qui se passait là. Pourriez-vous juste lever la main, juste pour vous, me montrer que vous le savez, c'était quoi qui se passait à Sodome et Gomorre? OK, on n'en parlera pas, ça ne me tente pas. C'est trop laid, c'est le contraire du mariage, c'est le contraire de la valeur de Dieu pour le bonheur du foyer. Je veux pas toucher à ça. Donc, mais ces gens-là ont dit, ce qui est bien, c'est mal. Et ce qui est mal, c'est bien. OK? Et donc, sans dissimuler, le péché est devenu leur style de vie. Quand Jean dit, dans les épîtres de Jean, celui qui pratique le péché est du diable. Il n'a pas dit « celui qui pêche », là, mais c'est marqué dans la Bible « celui qui pêche ». Mais le mot grec veut dire « pratiquer le péché ». Et Jésus, tantôt, a dit « celui qui se livre au péché est esclave du péché ». Donc, une fois qu'on est croyant, on n'est plus censé pratiquer le péché. Le péché n'est pas un style de vie. Si tout d'un coup, il y a un certain style de vie qui commence à apparaître, c'est que là, ça peut dépendre de certaines blessures du cœur du passé. Ça peut dépendre de trois mots que ton père t'a dit quand tu avais 5 ans. Ça peut dépendre de 4 mots que ta mère t'a dit quand tu avais 5 ans. C'est pas pour mettre la faute sur nos parents, pas du tout. Mais l'adversaire ou ta chair va se servir de quelque chose que quelqu'un t'a dit, et ça va te bloquer. Tu vas avoir de la misère avec ça dans ta vie chrétienne, t'en pourras plus. Il dit, ça se peut-tu que je sois sauvé? C'est grave, mais il n'y a pas de danger que quelqu'un qui a reçu Jésus perde son salut. Mais si tu as de la difficulté avec quelque chose dans ta vie, que tu luttes, que tu luttes, que tu luttes, c'est parce qu'il y a un petit peu trop de jeu. T'as essayé trop, arrête d'essayer. Arrête d'essayer. Une noix ne peut pas être battue par ton effort. Impossible de contrecarrer une noix. Pour battre une noix, qu'est-ce qu'il faut? Une autre loi. Jésus, dans ta vie, Jésus, c'est un donneur d'un beau cadeau. Il donne le Saint-Esprit. Mais la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ, cette loi-là, pas nous affranchira, pas, c'est nous a affranchis. OK? Quelqu'un qui a 1 million dans son compte, puis il vit comme un pauvre, on ne lui a pas dit qu'il avait 1 million dans son compte. Il était riche, on ne lui a pas dit. Mais quand tu sais que le péché est une noix, puis tu sais que ça prend un autre loi, puis tu y es pour rien là-dedans, tu as une décision à prendre, c'est serre-toi de cette loi-là que Jésus donne, la loi du Saint-Esprit de vie. Maintenant, si on regarde ça ici, le péché devient un style de vie, une pratique. Ça, là, faut pas aller là, OK? Puis Jésus est capable. Est capable. Aujourd'hui, je t'ai dit, en quittant la salle, tu vas déjà délivrer dans la salle si tu prends une certaine décision. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'y arrives pas, mais dis-toi-le, tu n'y arrives pas parce que tu essayes. Tu vas sortir d'ici content, puis ça va être merveilleux. Jésus va le faire pour toi. Le péché s'aggrave avec le temps. Ah! Le péché s'aggrave avec le temps. Le meilleur exemple, c'est Judas. Judas était un des disciples, puis il avait commencé juste à voler. Dans les disciples n'étaient pas riches, hein? Ils n'étaient pas riches parce qu'à un moment donné, il était question de payer des impôts, puis il n'avait pas assez d'argent pour payer les impôts. Jésus lui a montré en même temps qui il était. Ils allaient chercher un poisson, il y avait de l'argent dans le poisson. Mais donc, les disciples n'étaient pas riches. Et Judas avait coutume de voler dans l'argent que les disciples mettaient ensemble. Il ne volait sûrement pas beaucoup parce que les disciples n'étaient pas riches. Et puis, Jésus non plus, ses parents étaient charpentiers, donc ce n'étaient pas des personnes qui avaient des gros moyens financiers. Judas volait. À un moment donné, une femme qui est arrivée, une femme qui était guérie dans son cœur, une femme qui était pardonnée, avait un beau vase de parfum, qui valait cher, très cher. Elle a pris le vase, puis elle l'a brisé aux pieds de Jésus. Jésus, c'était toute sa vie, là, c'était tout son cœur. Là. Il m'a guéri, là. J'avais un cœur brisé, esclave, il m'a délivré. Et Judas, quand tu as vu ça, vous savez, vous connaissez, plusieurs d'entre vous, ce passage-là, c'est un répandeur de rumeurs. En plus de voler, le péché s'aggrave. Là, il a dit aux autres apôtres, parce que les évangiles rapportent que les apôtres se sont plaints de cette femme-là. Hey, c'est une vraie perte, ça. Une perte d'argent. Corser du parfum, ça valait plusieurs centaines, peut-être. Je ne me rappelais pas, j'aurais dû vérifier combien ça valait, mais ça valait très cher. Et combien? Combien, Jean-Marc? Une année de salaire. Fait que Judas dit que c'était une méchante perte d'argent. Et la Bible dit qu'il ne se mettait pas en peine des pauvres. Parce que lui, avec le parfum gaspillé à terre, pour lui gaspillé, mais pas pour cette femme-là, c'est toute sa vie qu'elle mettait aux pieds du Seigneur Jésus. Là, il a convaincu les apôtres de dire, « Ouais, c'est une vraie perte, ça. C'est une vraie perte, ça. C'est vrai que l'argent, on aurait pu faire du bien avec cet argent-là. » Jésus a dit, « Laissez-la tranquille. Laissez tranquille cette femme-là. Jésus protège. » Ses enfants qui ont compris, c'est lui qui est le trésor. Jésus, laissez-la tranquille. Elle a fait une bonne action à mon égard. Donc, Judas, qui volait, il a répandu des rumeurs, il a convaincu les autres disciples que c'était une perte d'argent, puis finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est rendu compte de sa gaffe, il aurait dû se repentir. Il est allé se pendre. Les entrailles de son ventre se sont répandues. Donc, il est mort pendu, en plus. Donc, il volait un peu, puis il volait, il a répandu des rumeurs, il était jaloux de Jésus, il a renié Jésus, puis après, il s'est pendu. Voyez-vous que le péché s'aggrave? Pense pas qu'il n'y a jamais de petits péchés. Il n'y en a jamais. Donc, le péché part de là et finit comment? Pendu. La mort. La mort. Et Jésus a dit, il aurait mieux valu qu'il vienne jamais au monde. Cet homme-là, c'est grave le péché. Et savez-vous, le but du péché, le but extrême du péché, c'est le refus de Jésus. C'est ça le péché. C'est le refus de Jésus. Que si tu dis là, toi, qu'on est esclave? On n'a jamais été esclave de personne. Je pense pas, hein? Le péché s'aggrave jusqu'à la mort. Et le péché nous fait creuser notre tombe. On l'a vu tantôt. OK? Le méchant creuse lui-même sa tombe, puis s'enterre lui-même. Puis juste quelques instants avant de mourir, avec le petit peu de force qui reste, il réussit à se rejeter de la terre sur la tête. C'est affreux, c'est stupide de mourir comme ça. Il creuse lui-même sa tombe. Puis le péché pourrit les belles choses. Si je vais vous montrer, tiens, ça ici. Si vous mettez une pomme pourrie parmi des belles pommes, pas besoin de vous l'expliquer, vous savez ce qui va arriver, hein? Cette pomme pourrie-là, il y en a juste une. Elle va toutes les pourrir, toute la gang. Pourquoi que ce n'est pas possible, le contraire? Ben regarde, est-ce que les pommes belles, là, sont supérieures? Ben oui, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, il y en a. Il y a le panier au complet, là, qui est en dessous. Il y a peut-être 30, 40 pommes. Pourquoi que le bien ici, là, pourquoi que les belles pommes ne réussissent pas à la rendre belle, cette pomme-là? L'inverse, c'est impossible. Savez-vous pourquoi? Mais parce qu'on est venu au monde d'une cellule. On est venu au monde dans une prison de mort. On est venu au monde dans le péché. On est venu au monde esclave du péché. Puis la loi de l'esclavage du péché, c'est que c'est le mal qui l'emporte. C'est une loi, le péché. C'est lui qui gagne dans la cellule de mort. Alors, mais savez-vous quoi? Jésus peut faire le contraire. Regarde bien. Ici, toutes les pommes sont pourries. Oh! Celle-là, voyez-vous celle-là? Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été à Jésus. Jésus, c'est le seul pur qui n'a jamais péché, qui peut rendre pur des pourris. Ben, je parle des pommes. OK? OK? C'est impossible dans la vie de tous les jours. Tu peux pas, c'est une loi irréversible. Le mal gagne. On est esclave. Mais Jésus, lui, qui n'a jamais péché, n'est pas sous la loi du péché. Il n'est pas esclave de rien. Jésus est libre avec son Père. Alors, Jésus a rendu pur cette pomme-là, puis ces pommes-là, on espère bien qu'ils vont se coller sur lui. Regardez, c'est qui cette pomme-là? C'est toi. C'est toi qui es là. Juste un petit peu plus loin dans Luc, s'il vous plaît. Tournez au prochain chapitre, au chapitre 5. C'est chapitre 5, verset 12, c'est pas loin de notre chapitre. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main. Savez-vous, Jésus aurait pu lui dire, « Je suis venu pour ça. Je suis venu pour toi. Comment ça, si je le veux? Comment ça, si je le veux? Je vais mourir pour ça dans quelques jours ou semaines ou mois. Je suis venu pour ça. C'est sûr que je le veux. » Puis Jésus lui a dit, il étendit la main, il le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, la lèpre le quitta. C'est aussitôt, la lèpre le quitta. Je le veux. Là, il n'était pas encore mort sur la croix. Ce que Jésus dit, ça dépendait aussi de sa mort. Mais Jésus savait ce qu'il s'en venait faire. Il pouvait lui dire, maintenant, sois pur. Mais en ce qui concerne l'esclavage du péché, ça prenait sa mort pour rendre efficaces les déclarations du Seigneur Jésus qui étaient basées sur sa mort et sur sa résurrection. Maintenant, en terminant, j'ai un ami qui s'appelle François. Vous le connaissez peut-être, c'est François Fréchette qui fait des émissions à l'heure de la bonne nouvelle. Okay? François, un jour, pour son examen, tu sais, l'examen annuel chez le médecin. Okay? François va chez le médecin pour son examen annuel, et puis lorsque c'était le temps du diagnostic, là, du compte-rendu, le médecin lui dit, « Tu as un cancer, tu vas mourir, François. » Là, François, voyons, « Hey, voyons, je sens rien. » Je dors bien, je mange bien, j'ai pas de douleur dans le ventre, c'est le côté. Comment ça, un cancer? Non, non, non. Ça se peut pas, je sens rien. Puis, si je ne me trompe pas, il y a eu un deuxième test. Fait que là, François sent rien. Bien, moi, je n'ai jamais été esclave de personne. Voyons donc, je me sens pas esclave. Mais si j'étais tellement aveugle que je les vois pas, mes péchés, j'ai de la misère à voir que je suis dans l'esclavage, je ne pourrais pas croire la personne qui le dit. Ben, François, là, c'est qui est obligé de croire? Ses amis? Hey, François, souvent, les médecins ils se trompent. Souvent, c'est ainsi. Hein? Tout le monde se trompe. Hein? Les médecins se trompent, les profs se trompent, les politiciens se trompent. C'est juste moi qui ne se trompe pas. Tout le monde se trompe. Puis encore, lui aussi, dans son être, il dit non, ça ne se peut pas. Qui est-ce qu'il faut que François croie? Celui qui lui dit, tu vas mourir. Alors, François, effectivement, il avait un cancer. Et puis, le médecin lui a dit, suis mes directives, puis tu vas t'en sortir. Puis justement, il s'en est sorti, le cancer a été dévoilé à temps. Donc, le Seigneur Jésus retourne, s'il te plaît, dans Luc au chapitre 4. Si tu as de la misère ce matin, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu dis, moi, je me sens pas pécheur, là, tu sais. Je me sens pas comme ça, tu sais. Vous pas esclave de personne. Si tu te sens comme ça, je voudrais juste te présenter en quelques instants, c'est qui te dit ça, que tu es captif. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oint. Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient oints, c'est ceux qui recevaient de l'huile sur la tête pour une fonction spéciale. Le roi recevait de l'huile avant de faire sa tâche. Le sacrificateur recevait de l'huile avant de faire sa tâche. Et le prophète recevait de l'huile. Alors, Jésus, en disant qu'il a été oint, Jésus démontrait qui il était. Il était le roi des rois. Il était le roi qui n'avait jamais perdu aucune guerre jusqu'à maintenant. Ensuite, Jésus est le sacrificateur. Lui, il amenait une bête là, qui était sacrifiée sur l'autel et qui couvrait les péchés en attendant que Jésus meure. Mais Jésus a fait plus que ça. Jésus est venu, c'est lui-même le sacrifice. Jésus est le sacrifice. Alors, la personne qui te dit « tu vas mourir », c'est François Fréchette, là, mon ami, tu vas mourir. C'est un médecin compétent. Mais Jésus est compétent. Jésus, le roi, le prêtre qui va mourir pour toi, le sacrificateur, et le prophète. Un prophète, ça prend la parole de Dieu, puis ça les dit au peuple. Mais Jésus a fait plus que ça. Il est la parole de Dieu. Il fait plus que l'amener, c'est lui qui s'amène. Il est la parole. Alors, celui qui te dit, tu vas mourir, c'est le roi, le souverain sacrificateur, et le prophète. Il est Dieu devenu un homme pour toi. Maintenant, ça c'est l'identité de celui qui te dit que tu es esclave. Si tu ne te sens pas assez pécheur, pourquoi tu ne croirais pas qu'est-ce que le médecin dit sur toi? Maintenant, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, mais comme ma fille et son mari ont manqué la visite dans la maison porte ouverte, regardez à la fin du passage, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est une année porte ouverte. C'est pas ouvert tout le temps. C'est pas ouvert tout le temps. Je vais revenir au début. Ici. Année porte ouverte. Une année de grâce. Est-ce que vous n'êtes pas content que le Seigneur Jésus a élastisé l'année? Il l'a rendu élastique? C'est un laps de temps. Une année. On ne sait pas quand ça va finir, mais en disant une année, il implique que la porte va se refermer. Et moi, je t'invite à prendre une décision. Jésus révèle que le temps est limité. C'est une année de grâce qui peut se terminer n'importe quand. Est-ce que tu veux, aujourd'hui, accepter ce qu'il dit concernant la captivité du péché? Est-ce que tu veux, si on retourne aux pommes ici, là, s'il vous plaît, on va finir avec ça. Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus et le recevoir dans ta vie? Prions. Seigneur Jésus, si tu le sais, Seigneur Jésus, tu nous connais. S'il y a quelqu'un ici dans la salle qui ne t'a pas encore reçu, il a juste à s'approcher de toi. Et la repentance, comme on l'a entendu dimanche passé, commence avec croire qu'est-ce que tu dis sur nous. Tu dis qu'on est captif, qu'on est pécheur. Montre-les ces péchés dans nos vies qui pourrissent notre vie. Et si il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, fais-le maintenant, là où tu es assis. Dis, Seigneur Jésus, je crois qu'est-ce que tu dis. Je suis pécheur, puis je te reçois dans ma vie. Je sais que je suis pécheur, j'ai vraiment besoin de toi pour que tu me délivres de l'esclavage du péché. Puis après, montre-le-moi comment je vais faire pour te suivre, pour être heureux avec toi. Et si quelqu'un dans la salle a déjà reçu Jésus, puis tu as un problème avec une certaine habitude dans ta vie, aujourd'hui, le Seigneur Jésus peut faire quelque chose. Il délivre. Et il le veut. En Jésus-Christ. Amen.